passer, j'ai perdu la clé.
Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 21 du podcast de Rendez-vous Création. Je suis aujourd'hui à la brasserie Wepler sur la place de Clichy à Paris et je me trouve en compagnie de Tania de Montaigne. Salut Tania.
Salut.
On va parler d'écriture d'un roman.
Ouais.
Tu vas nous dire comment tu fais, puisque tu en as écrit 4 jusqu'alors.
Eh ouais, ça nous rajeunit pas.
Alors avec toi, on pourrait parler de sujets divers et variés, tellement tu as d'activités différentes. On t'a beaucoup vu à la télé, donc tu écris des romans. En ce moment, tu fais beaucoup de musique.
Ouais. Mais bon, on a dit qu'on choisissait. Hein.
Ouais. Tu as des activités associatives, tu fais l'enseignement.
Ouais, c'est ça.
Tu as fait la radio.
Ouais, ça j'ai fait un peu, hein. Ça restera quand même une chose un peu anecdotique, hein, je dirais, dans mon parcours. Mais...
Et la presse ?
Et la presse, alors ça, je fais ça depuis 2 ans en fait. J'ai 2 pages dans un journal et c'est plutôt des billets, hein, c'est pas de la critique. C'est un mensuel, un féminin qui s'appelle Esprit Femme. Et là, je traite de tout ce qui est cinéma, musique et sorties, donc les expos et tout ça.
Toujours dans le domaine culturel donc ?
Ouais, alors ça c'est bien parce que du coup... Au fur et à mesure, j'ai réussi à resserrer ce dont j'ai envie de parler. Et voilà, et on m'appelle pour ça, donc c'est bien.
Les 4 romans, c'est Patch en 2002, ça parlait d'arrêter de fumer.
Ouais.
Le quart d'heure islandais en 2003.
Ouais.
On peut dire peut-être que c'est une satire de la société du spectacle.
Ouais.
En 2005, il y a eu Geneviève et la théorie du 5.
Ouais.
À propos du destin.
Mais attends, Patch 2002, je pense que c'est le poche là, parce qu'il y a les poches et les grands formats, donc je pense que 2002, ouais, ça doit être la sortie poche.
Il serait sorti en 2001 ?
Je pense.
D'accord. Et Tokyo c'est loin, en mars 2006, donc ça fera bientôt 1 an.
Ouais, et il sort en poche en mai, je crois.
Et le thème, c'est la rupture.
Ouais, le thème en fait, c'est l'abandon. Voilà. C'est-à-dire que la rupture, c'est le prétexte pour réfléchir à ce que ça signifie en fait pour une femme. Alors après, je pense que pour un homme, il doit y avoir des ressorts qui sont du même ordre, mais il y en a qui sont très différents parce qu'il reste dans cet inconscient collectif qui nous structure tous, l'idée que malgré tout, une femme, elle est déterminée par le regard d'un homme. C'est ça qui lui donne sa légitimité en quelque sorte. Donc s'il y a plus regard, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui m'intéressait en fait.
Est-ce que je peux dire, sans que tu m'étrangles, que ce que tu écris, c'est drôle et moderne ?
Ah non, j'aime bien ça. Je croyais que tu allais dire un truc qui allait m'énerver. Hein. Non, ça me paraît bien.
On va mettre un fond musical ou éventuellement une intro et puis une conclusion musicale. Qu'est-ce qu'on va mettre ?
Ah ben on va mettre Caresser, qui est mon sorte de single terrible qui normalement devrait envahir la planète.
D'accord.
Dans très peu de temps, quoi.
Ouais. Alors, on va parler de l'initiative, ce qui est à l'origine de tes romans, ce par quoi tu commences. Déjà, au niveau organisation, est-ce que tu as un calendrier ?
Moi, ce que je m'étais dit, en fait, ça part de là. C'est-à-dire que à un moment, je me suis dit que je voulais essayer d'être écrivain. Donc, je me suis dit, j'écris un livre tous les ans, pendant 3 ans. Et si au bout de la 3e année, vraiment, j'ai que des lettres d'éditeurs qui me disent « Je vous en supplie, arrêtez d'écrire, c'est trop horrible. » Bon, bah au moins, comme ça, je serai allé au bout de ma démarche, quoi. Donc, j'ai écrit un premier livre que j'ai envoyé à tout le monde. Parce qu'en général, c'est ça, hein, le principe, c'est que quand on écrit un premier roman, on veut absolument l'envoyer à tous les éditeurs. Je le dis pour les apprentis écrivains ou ceux qui ont envie, je vous dis ça, mais vous n'en tiendrez absolument pas compte parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Mais le truc le plus judicieux, c'est quand même de regarder les maisons d'édition qui correspondent à ce que vous avez envie de défendre, quoi. Mais bref, donc le premier, on l'envoie à tout le monde, c'est comme ça. Et puis le deuxième, en revanche, là, j'ai ciblé, j'ai envoyé à 2 personnes. J'ai envoyé à Florent Massot et puis j'ai envoyé à Guillaume Dustan, qui est un auteur, enfin qui était, parce qu'il est décédé, mais et qui était aussi responsable d'une collection qui s'appelait Le Rayon, qui était chez Ballant. Je trouvais que son travail était vraiment intéressant, donc j'avais envoyé aux 2, j'ai eu de la chance parce que les 2 m'ont répondu. Quand j'ai envoyé à Florent Massot, j'ai envoyé pour avoir son avis, parce que lui en fait il n'éditait que des auteurs anglo-saxons, dont un que j'aime trop, qui s'appelle David Sedaris, qu'il faut absolument lire, qui a écrit entre autres un livre qui s'appelle Tout Nu, des petites nouvelles sur son enfance à lui. Il est d'origine grecque et il a une mère complètement improbable, son père aussi d'ailleurs, enfin bref. Et donc du coup c'est toute cette chronique familiale, et puis lui sa découverte de lui, de son homosexualité, tout ça. ce type peut me faire hurler de rire pendant des heures. Puis en même temps, il y a des passages extrêmement émouvants sur sa mère et tout. Enfin, voilà, c'est, ça correspondait à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de s'autoriser à aller dans tous les espaces d'écriture et de pas se dire, tiens, je vais faire un truc comme ça ou comme ça, mais d'avoir des choses très tristes et des choses très gaies, enfin, comme dans la vie, quoi. Et donc, voilà, et je m'étais dit, je vais envoyer à Florent pour avoir son avis. Entre temps, il a déménagé, donc mon manuscrit est parti avec le déménagement et il s'est retrouvé en haut de je ne sais quelle armoire. Et en fait, c'était l'été, je me souviens, et je m'étais dit, bon, bah là, je vais refaire le tour un peu des maisons d'édition. Donc, j'appelle chez Florent et j'ai une jeune fille qui avait été embauchée pour trier les manuscrits. Et je lui dis, j'aimerais juste le récupérer. Et elle me dit, écoutez, je le cherche et je vous tiens au courant. Et elle l'a retrouvé. Et en fait, elle l'a lu. Et il se trouve qu'à l'époque où elle l'a lu, Florent avait décidé d'ouvrir sa collection à des auteurs français et il n'en trouvait pas. Et du coup, il m'a appelé, voilà, 3 jours après. Et voilà. Et donc, j'ai bien fait. J'avais décidé de ne pas partir en vacances et j'ai eu raison.
Là, quand on fait le tour de tes romans, on voit à peu près qu'il y en a un par an.
Après Patch, l'année d'après, j'ai sorti un livre. Mais après ça, j'ai décidé de prendre plus de temps parce que j'étais plus dans la dynamique de vérifier que j'étais vraiment un auteur. Parce que c'était ça la question, c'était savoir si je pouvais produire en fait. Mais après, ça, la question ne se posait plus. Et donc du coup, maintenant, j'essaye de faire au mieux, c'est tous les 2 ans, quoi. D'autant plus que j'ai, là encore une fois, du bol. C'est que tous mes livres sortent en poche. Donc du coup, ça veut dire qu'à un moment, chaque année, en fait, il y en a un, quoi. Soit c'est un grand format, soit c'est un poche. Et donc du coup, c'est bien comme rythme, je trouve.
Il y a aussi la question du temps.
Ouais, mais alors ça, après, il faut se le donner. Le truc, c'est que moi, j'écris tout le temps, en fait. J'ai tout le temps un cahier avec moi et je note plein de choses. Et puis, à un moment, je commence à avoir de la matière et une trame. Et une fois que ça, c'est fait, une fois que je sais que j'ai suffisamment de matière, là, je fais plus que ça. C'est-à-dire que vraiment, je me mets au livre et je prends 4 mois où je suis tous les jours devant mon ordinateur. Mais je passe d'abord par le papier parce que sinon, je pourrais pas écrire, en fait.
Donc, l'idée du roman vient des notes.
Ouais, enfin, l'idée du roman, non, elle vient d'une chose que j'ai pu... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les états qui nous obligent à être un peu en dehors de nous-mêmes. Donc, le manque, enfin, la cigarette, c'est intéressant parce que, du coup, ça vous oblige à... Enfin, il y a des choses qui échappent, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on devient un peu fou, en fait. C'est ça, c'est ce moment-là où on a la capacité de basculer dans la folie, mais tout en restant quand même cadré, quoi.
Il y a aussi une inspiration qui doit venir du cinéma, non ?
Eh ben alors c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que là par exemple pour l'instant j'écris un peu mais je me retiens parce que je suis sur la musique et ça fait appel à 2 choses très différentes. En fait pour écrire et composer de la musique j'ai besoin de lire un peu et d'écouter de la musique, enfin voilà, d'aller à des concerts, de voir un peu comment les autres se débrouillent. Et puis pour écrire des livres j'ai besoin d'aller beaucoup au cinéma. Donc du coup, voilà, c'est aussi pour ça que ça s'entrechoque et que je peux pas faire les deux en même temps.
Pour Tokyo c'est loin, on pense forcément à Lost in Translation.
Ah, mais alors c'est marrant parce qu'en fait, c'est pas ce qui m'a inspirée. Mais ceci dit, c'est normal que ça fasse penser à ça parce que ma perception de Tokyo, c'est exactement la même que ce qu'elle a pu percevoir. C'est-à-dire ce côté d'étrangeté à soi-même. C'est ça qui... Enfin, moi, quand je suis restée à Tokyo, c'est l'effet que ça m'a fait, quoi.
Et le cinéma, ça doit vraiment avoir une place importante pour toi. Par exemple, dans Tokyo, c'est loin, il y a pas mal de paragraphes, de phrases qui commencent par « dans les films, les gens ».
Oui, alors ça, c'était... Mais alors ça, c'était l'autre aspect. Ce qui est intéressant, en fait, dans les films, ce dont je parle, c'est évidemment les films américains. Ce qui est intéressant, c'est que ça a presque la même fonction que les contes de fées dans notre structuration, dans l'imaginaire et tout ça. Et donc, du coup... Ça fait que, effectivement, ça permet de toujours confronter l'idée que les films nous donnent de ce que la vie devrait être et la vie en général qui, pour le coup, a pas toujours de rapport.
Donc tu joues avec les clichés.
Oui, ce qui était intéressant et ce que je trouvais en résonance avec ça, c'est que dans une rupture, il y a quelque chose d'extrêmement banal. C'est comme l'adolescence, quoi. C'est-à-dire que quand on est ado, on a l'impression que vraiment on vit des trucs d'une singularité incroyable et complètement insensée que vraiment personne ne peut comprendre. Et au bout du compte, quand on regarde un ado, il y a à peu près tout. Et que nous, on a dépassé ce stade, on se rend bien compte à quel point il y a des choses qui sont valables pour tout le monde, qui sont des espèces de fonctionnements comme ça, mais qui doivent être probablement biologiques, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même très particulier que... tous les coins, les 4 coins de la planète, un ado, il y a des trucs qu'il fait, quoi. Il y a des chemins obligés, il y a des perceptions qui sont... Donc voilà. Et dans la rupture, il y avait ça. Il y a ce côté très singulier, parce que chacun a son histoire et ça résonne sur des trucs très personnels. Et puis en même temps, il y a des trucs, c'est obligé, quoi. Et les films, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de l'ordre du cliché et puis en même temps, ça nous parle quand même un peu, quoi.
Alors, on a parlé des notes. Est-ce que à côté des notes que tu peux prendre tous les jours, tu fais un travail de documentation ?
Sur le quart d'heure islandais, par exemple, c'est beaucoup sur le festival de Cannes. Et donc, je suis partie. Enfin, j'avais déjà travaillé pour Nulle part ailleurs. J'étais déjà partie, donc j'avais déjà un peu de matière. Et puis après, j'y suis retournée pour reprendre d'autres notes. Donc voilà, sur Tokyo, bah, je suis partie à Tokyo. En fait, c'est parce que j'ai fait un voyage à Tokyo que je me suis dit qu'il y aurait des choses à faire. Donc j'avais pris des notes et puis voilà. Puis à un moment, ça s'est retrouvé avec un sujet qui m'intéressait. Et j'ai pu faire le lien entre la rupture, cette ville, ce que ça génère et voilà. Donc ben non, parce que pour l'instant, j'écris pas non plus. C'est des romans qui partent de choses assez concrètes que je peux avoir éprouvées moi, quoi. Mais là, je suis en train de travailler sur un truc. Enfin, il y a deux livres. Il y en a un qui est la suite de Tokyo, en fait. Et puis, il y en a un autre qui m'est venu comme ça et qui nécessite de la documentation.
Tu n'as peut-être pas besoin de faire des fiches sur les personnages, sur les lieux ?
Ah non, ça, moi, je ne travaille pas du tout en fiche, en fait. Il faudrait que je discute avec d'autres romanciers. Je ne sais pas comment ils travaillent. Mais pour moi, le coup de la fiche, ça n'a pas de sens dans la mesure où je suis vraiment dans... essayer de retranscrire au plus simple un état. C'est ça qui m'intéresse. Donc je sais à peu près comment est le personnage et comment il va bouger, comment il va s'organiser. Et après, c'est vraiment de décrypter cet état, d'aller au plus loin dans la description de ce truc-là.
Il y a 33 chapitres, donc il y a forcément un découpage prémédité. Est-ce que tu vas au-delà de la structuration du roman ? Est-ce que tu prévois à l'avance ce qu'il va y avoir dans chaque chapitre ?
Non, là, en fait, j'ai travaillé comme je ne travaille pas d'habitude. C'est-à-dire, normalement, en fait, moi, j'écris tout un livre et puis après, je l'envoie à mon éditeur et puis après, lui, il a, enfin, on peut largement travailler dessus et regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Mais tout est déjà assez prévu, en fait. Donc, les modifs qui peuvent avoir lieu, c'est rallonger un chapitre, raccourcir un autre. On est sur des trucs vraiment de détails. Et sur celui-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé... Tous les mardis, en fait, j'ai décidé d'envoyer un chapitre à mon éditeur. Donc, je lui ai envoyé le chapitre. Tout de suite, j'avais son retour. Donc, on modifiait tout de suite les choses. Et ensuite, je ne relisais pas le chapitre d'avant pour aller à celui d'après. Donc, mon œil extérieur, pour la première fois, ça n'était pas moi. C'était lui, et c'est lui qui devait garder la constante dans le roman.
Donc, tu as eu des retours au fur et à mesure.
Ouais, ça, c'était génial. J'envoyais, hop, tout de suite, genre une demi-heure après, on s'appelait et tout, c'était vachement bien.
Ça t'arrive des fois d'écrire une version courte avant d'écrire le roman en entier ?
Non, ça m'arrive pas du tout, parce que comme j'ai déjà un premier filtre qui est le papier, quand j'arrive sur l'ordinateur, c'est pour écrire le roman.
Et le titre, Tokyo, c'est loin ?
Eh bien, alors ça, en fait, au départ, c'était un titre de travail. Et puis, ça correspondait exactement... En fait, c'était ça, quoi. Donc, je me suis dit, on va le garder, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça veut dire plein de choses. Donc, c'est ça qui était pas mal. À la fois, il y a un côté nostalgique, et puis il peut y avoir un côté très concret, ce qui est le personnage aussi. On peut imaginer que Tokyo, en fait, c'est le bonheur, peut-être, et que c'est loin, c'est passé. Ou on peut imaginer que c'est l'avenir, justement, et qu'il va falloir cheminer vers ça. Enfin, bon, il y avait plein de choses.
On va parler maintenant de l'écriture même du roman. Écrit à quel moment ?
Ah ben moi, j'ai écrit la journée. J'ai essayé de trouver des trucs très originaux, tout ça, mais en fait, la nuit, je dors, donc en fait, j'écris le jour, quoi.
T'écris donc avec un traitement de texte, peut-être Word
Ah bah ouais. Alors là, vraiment, c'est d'un basique. Ouais, c'est une sorte de Word.
Une sorte de Word.
Ouais, il n'y a pas du tout de trucs originaux. À un moment, je me suis dit, il faudrait que je trouve des trucs un peu qui changent, quoi. Parce que je vois bien qu'il y a des auteurs qui se donnent un mal de chien pour... ils écrivent, on se dit, mais c'est complètement insensé, quoi. Ils boivent du vinaigre et tout, enfin, des trucs complètement dingues. Mais en fait, non.
T'as jamais eu de problème, justement, avec l'aspect informatique de la chose, des pertes de fichiers ?
Non, mais alors ça, c'est un truc aussi. Peut-être que j'ai trouvé un moyen de pas du tout me stresser sur cette question. Comme déjà, j'ai le papier... Et puis après, je me dis que si mon métier, c'est d'être écrivain, si je perds un truc, je perds un truc, quoi. Et s'il revient pas, c'est que finalement, ça devait pas être fondamental. Voilà.
Et est-ce qu'au moment où t'écris, tu gères la façon dont, par exemple, tu utilises les répétitions ? Donc, on a vu tout à l'heure que tu disais souvent de temps en temps, dans les films, les gens. Et puis, il y a aussi dans Tokyo, c'est loin, beaucoup de passages qui sont d'ailleurs en italique et qui commencent par « ce que je sais ». Est-ce que tout ça s'est organisé ou est-ce que
oui,
ça
oui,
vient...
Oui, bah en fait, ça s'est venu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, qui était donc la première page, en fait, d'un coup, j'ai trouvé cette mécanique de fonctionnement, en fait. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait une répétition. Enfin, je voulais qu'il y ait un ressassement, parce que c'est de ça dont il s'agit, quand on est en train de se dire « mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, je voulais qu'il y ait ça. Je voulais qu'on sente qu'elle est... C'est quelqu'un, elle est très rationnelle. Hein. Normalement, elle va d'un point à un autre, et normalement, la vie, tac, voilà. Et donc... Là, d'un coup, c'est pas possible de plaquer une rationalité sur ça. Parce qu'en fait, quand on vous quitte, globalement, ça met en jeu plein de questions. Je voulais qu'elle recense toutes les choses qui sont sûres dans ce monde et qu'elle se dise, bon, ça, d'accord, ça, c'est fait. Voilà, qu'il y ait des choses comme ça qui soient des points d'ancrage. Et au fur et à mesure du livre, il y en a de moins en moins. Parce que, en fait, le propre de l'existence, c'est qu'on sait pas, quoi. Donc, et c'est ça le plus difficile à admettre.
Est-ce que t'as pensé à la première phrase, à la dernière phrase ? Est-ce que sur les chapitres, tu fais en sorte de toujours tombé sur une espèce de chute.
En tout cas, je fais en sorte de développer quelque chose. Alors après, comment va s'opérer la césure, ça, je sais pas trop, mais je veux développer un point de vue. Donc voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et puis après, il se trouve que la dernière phrase, c'est particulier parce qu'elle m'est venue effectivement à un moment où j'étais pas du tout à la fin du livre. Et je me suis dit, c'est ça, en fait, la dernière phrase. Mais ce qui n'est pas systématique, ça n'arrive pas tout le temps. Mais là, d'un coup, c'était assez évident de finir sur un « ce que je sais » déjà, et que ce soit celui-là, en fait.
Les répétitions, ça fait aussi pas mal penser au refrain dans les chansons, non ?
Ouais, alors celui-là, en fait, ouais, ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, alors que normalement la musique et les livres, ça s'entrechoque un peu, mais il se trouve que là, ça s'est fait en même temps. C'est-à-dire que j'ai écrit des chansons en même temps que j'écrivais Tokyo. Et donc, du coup, c'est pour eux, c'est-à-dire que la façon d'écrire des chansons et la façon d'écrire des livres, elles ont été modifiées les deux. Parce que souvent, quand on écrit des chansons, on est très, très, très angoissé par les rimes. Hein. On est bloqué là-dessus. Et en fait, justement, Benjamin Biolay, il m'a dit, mais en même temps, si t'es auteur, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ce que tu sais, c'est-à-dire de vouloir raconter une histoire? C'est ça qui est intéressant. Et il me dit, si tu racontes une histoire, les rimes, elles vont venir toutes seules. C'est plus le problème, quoi. Et du coup, ça dégage complètement l'écriture de chansons. Et c'était vrai. Puis en revanche, dans l'écriture du livre, je me suis autorisée des choses que j'aurais peut-être pas fait avant, c'est-à-dire effectivement d'avoir des phrases comme ça qui reviennent et qui structurent le livre et tout. Donc là, c'était assez rigolo de voir comment c'était pour eux, les deux trucs.
Comment, au départ, tu choisis la forme du récit ? Le point de vue, le temps du récit ?
Après, moi, pour chaque livre, je me donne un challenge. Pour le quart d'heure islandais, le deuxième, l'idée, c'était de construire un récit à l'envers, de voir comment on pouvait faire ça, de modifier le sens du récit. Pour Geneviève, c'était l'idée d'essayer de faire vivre plein de personnages et d'avoir plein de formes de récits à l'intérieur d'un même livre. Aussi pour Geneviève, l'idée c'était d'écrire à la troisième personne pour voir un peu ce que ça donnait, d'être vraiment complètement extérieur au personnage et de regarder comment il vit.
Et une fois que le texte est finalisé avec l'éditeur, il doit y avoir des échanges aussi au niveau de la forme.
Alors ce qui est génial, c'est qu'effectivement, moi j'ai toujours participé à comment on va mettre en forme le truc. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme ça que j'avais choisi Guillaume Dustan ou Florent Masseau, parce que je trouvais qu'ils faisaient un travail aussi bien sur la couverture que... voilà, c'est pas des collections blanches, quoi. Donc, il y a une réflexion sur ce qu'on va donner à voir et comment on va le donner à voir et tout. Donc, une fois que tout est finalisé au niveau du texte, là, par exemple, sur Tokyo, l'idée, c'est qu'il y a un super graphiste qui a fait ça. Il n'a pas lu le livre, donc on lui donne les mots-clés. Donc ce qu'on voulait vraiment avoir, c'est-à-dire qu'on comprenne qu'il y ait le Japon, qu'on comprenne qu'il va y avoir les années 70, qu'on comprenne qu'il y ait le voyage, que le personnage, c'est un personnage féminin. Et là, en plus, il se trouve que dans le livre, à un moment, elle fait une allusion à Mireille d'Arc et tout ça, et à cette robe du grand blond. Donc du coup, voilà, on lui a donné des trucs comme ça. Et je crois qu'il a lu la première page, la page d'ouverture, et puis il a proposé des choses.
D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous lire le premier paragraphe ?
Ouais, bien sûr. Dans le monde, toutes les 3 minutes, une femme est quittée. Il y a 3 minutes, c'était moi. Si la prochaine pouvait se manifester, si elle pouvait habiter l'immeuble d'à côté, la porte d'en face, nous nous ferions face comme dans un miroir. Nous nous regarderions, l'œil hagard, le nez rougi, elle me dirait « Ah, le salaud !» Je lui dirais « Ah ouais, le con !» Ce serait extrêmement pathétique et saisissant de vérité. Elle deviendrait ma meilleure amie ou quelque chose d'approchant.
Quand ton livre est sorti en librairie, tu le lis ? Tu le relis ?
Non, alors le truc, c'est que pour qu'on arrive au livre... Déjà, ça veut dire que je l'ai relu 90 777 fois, normalement. Parce qu'avant qu'il sorte, les premières épreuves, donc là, hop, on s'y remet, Guillaume et moi, chacun de notre côté. On regarde tout, on lit déjà pour voir s'il n'y a pas de faute et tout ça, s'il n'y a pas eu de coquille ou je ne sais quoi. On regarde tout, les virgules, est-ce qu'elles sont judicieuses, les points, est-ce qu'ils sont judicieux, est-ce qu'il faudrait mettre un point-virgule ou pas, est-ce qu'il y a des phrases qu'on peut enlever, est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on comprend pas. Il y a une correctrice aussi qui, elle, fait dans son coin, qui a pas du tout lu le texte avant, donc du coup, qui est pas comme nous, qui a pas la tête dans le guidon, et elle aussi, paf, elle fait le même travail et tout. Et ensuite, on réunit nos 3 épreuves, et on regarde qui a dit quoi, et si on est d'accord ou pas, et tout ça, machin. Une fois que ça s'est fait, ça repart. 2e épreuve. Donc là, tac, on relit encore une dernière fois pour voir si on est bien d'accord et tout. Et ensuite, seulement, ça part à la fabrication. Une fois que c'est parti à la fabrication, on relit pour être sûr que vraiment, il n'y a plus aucune et qu'on n'a pas de regrets. Et puis pour voir ce que ça donne, parce qu'en fait, on ne le voit pas jusque-là. On l'a vu en Word, on a vu le truc. Ensuite, quand ça va revenir en épreuve, on l'aura avec cette typo qui s'appelle Garamond. Et puis on aura à peu près comment ça va s'organiser. Mais après, le truc dingue, c'est de voir le livre.
Avant que le livre sorte, il y a aussi la photo. pour la quatrième de couverture.
Ouais, mais ça c'est toujours un problème parce que moi ce que j'aimerais en fait c'est pas avoir de photo. Mais alors donc du coup à chaque fois, là j'ai l'impression que ta photo elle fait 17 mètres de haut. Je sais pas. Dit à ce rythme-là, bientôt il y aura.
Oui,
y aura
t'as une pas l'air
photo,
petite. Ouais.
Bah, c'est ça, on dirait que je fais 7 mètres. Enfin, bon, écoute, ça c'est. Après, le truc, moi aussi, que j'ai admis, c'est que mon travail, c'est d'écrire des livres. Maintenant, après, il y a des gens, leur travail, c'est de les vendre. Et il se trouve que moi, j'ai pas forcément la compétence pour ça.
Une fois que le livre est sorti, tu dois peut-être suivre un peu les ventes quand même.
Non, alors ça c'est un truc que je ne fais jamais parce qu'en fait je trouve que soit ça marche bien et c'est pas de ma faute et soit ça marche pas et c'est pas de ma faute quoi. Donc j'essaie de pas trop m'y intéresser en fait, je m'en fous. Enfin ce que je veux c'est que Guillaume soit content et qu'on puisse faire d'autres livres mais après...
Mais tu dois avoir des échanges avec les lecteurs. Hein.
Alors ce qui est bien en fait surtout c'est que là pour le coup après moi je fais beaucoup de salons parce que j'aime bien et que c'est le seul moment où je peux voir effectivement des lecteurs et des auteurs. Donc moi j'adore ça les salons, je trouve ça vachement bien.
Tokyo, c'est loin, c'est ton quatrième roman.
Ouais.
On a vu qu'il y avait quand même un changement intéressant dans ta façon de travailler, qui était notamment l'échange avec l'éditeur au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont évolué ?
À l'intérieur même de l'écriture, il y a des choses qui ont évolué, qui sont liées directement à la chanson. Et curieusement, en fait, avec la maîtrise, il y a un truc qui est pas mal, c'est de pouvoir plus se relâcher parce qu'en fait dans les premiers livres on est tellement concentré sur quelque chose que du coup c'est un peu verrouillé comme écriture et là d'arriver à un peu à du relâchement c'est pas mal quoi. Mais en même temps il faut garder la simplicité du début quand on réfléchissait pas à son écriture. Donc il y a deux aspects comme ça, mais c'est pour ça que c'est bien de lire d'autres gens parce que comme ça ça maintient un truc, on se dit ah ouais d'accord, c'est possible de faire ça.
Le conseil pour les débutants ça serait quoi?
Ce qui est pas mal en fait, moi je me suis dit, voilà, il y a Duras, Maupassant, nana, tout ça, il y a tout un tas de gens qui font des trucs formidables, donc je n'ai pas du tout à me mettre la pression. Si les gens veulent lire Duras, Maupassant ou je ne sais qui, ils peuvent. Donc du coup, moi j'ai tout un espace, alors là pour le coup, de décontraction totale où je vais essayer de faire ce qui m'est le plus proche. En fait, le vrai conseil c'est d'essayer d'avoir sa plume qui soit le plus collée à son cerveau possible et d'être au plus près de ce qu'on a envie de dire, de sa singularité. Il faut essayer d'être au plus proche de soi-même et pas de se dire non, mais la littérature c'est telle chose ou c'est telle autre. Voilà, il faut être très sûr soi et sûr de soi aussi, mais dans un premier temps dans l'écriture, il faut pas du tout s'excuser d'être là parce que sinon ça fait des choses à moitié et c'est pas intéressant en fait.
Tu as dit tout à l'heure que tu avais deux projets de romans en cours.
Ouais. Là, j'en ai deux en parallèle mais je suis obligée de les arrêter parce que faut que je me concentre sur mes répétitions tout ça là. Et puis en plus, du coup, on m'a commandé des textes. Ça, c'est bien aussi, d'écrire pour d'autres gens, d'autres chanteurs. Donc du coup, là, je suis là-dessus. Mais je vais m'y remettre après.
Donc pour tous ceux qui voudraient lire Tokyo, c'est loin ou les romans précédents, on les trouve évidemment dans toutes les librairies.
Ouais, même sur le net, hein, je crois.
Voilà.
Normalement, ils les ont encore.
Et justement, sur le net, ce qu'on trouve aussi, c'est un peu de ta musique. Puisque tu as une page sur MySpace.
Ouais, j'en ai sué hein, pour la faire.
MySpace.com/Tania de Montaigne.
Ouais, ça c'est pas mal hein, comme truc. Enfin, ça fera l'objet d'une autre, un autre épisode là.
Hein. Et oui.
On se reverra.
Forcément. En tout cas, merci Tania.
C'est moi, merci beaucoup.
Et puis, à bientôt.
Ouais.
Et
salut
à tous.
L'autre, le temps est passé, j'ai perdu la clé. D'un amour, l'autre, les heures ont filé, j'ai perdu la clé. Le mieux en attendant, se laisser par le vent caresser. Et pas fâché pour autant, se laisser par le vent caresser. D'une envie, l'autre, le coup m'est passé, j'ai perdu la clé. D'un ami, l'autre, la vie a roulé, j'ai perdu la clé. Le mieux en attendant, se laisser par le vent caresser. Et pas fâché pour autant, se laisser par le vent caresser. Faire juste un pas de côté, une île, une arche bien cachée, caresser, oh, 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 oh. par le vent caresser. Et si tout gronde au-dedans, c'est laisser